Voilà, bonjour à chacun. J'aimerais ce matin aborder un verset de l'Écriture qui m'a interpellé cette semaine. C'est un verset bien connu de la lettre de Paul aux Philippiens. Cette lettre où l'apôtre parle paradoxalement beaucoup de la joie alors qu'il est en prison, alors qu'il est dans les chaînes, écrit-il. Cette lettre où l'apôtre fait face à la possibilité de sa propre mort, ce qui va l'amener à écrire ce verset dont nous allons parler. Je vous invite à lire dans vos Bibles ou à écouter la lecture de ce verset que je vais lire dans son contexte immédiat. C'est donc au premier chapitre de Philippiens, Philippiens 1, je lis les versets 19 à 25. Philippiens 1, versets 19 à 25. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais pas. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai et je séjournerai auprès de vous tous, pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera aussi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Le premier point que j'aimerais aborder s'intitule « Le dilemme de l'apôtre ». Le dilemme de l'apôtre. Paul, dans les versets que nous venons de lire, fait face à un dilemme. Un dilemme qu'il exprime au verset 22 et 23 que je relis. « Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » À l'évidence, l'apôtre est partagé. D'un côté, la vie utile pour le ministère que le Seigneur lui a confié. Et de l'autre, la mort qui l'introduira dans la présence de Christ. Au stade où il en est, il ne sait que penser. Il hésite. Il est pressé des deux côtés, dit-il. Autrement dit, il voit de bonnes raisons de choisir les deux, même si s'en aller et être avec le Christ serait de beaucoup le meilleur. L'apôtre semble donc, dans notre texte, être en dialogue avec lui-même. D'ailleurs, la syntaxe de ce passage en grec est plutôt hachée et traduit les pensées contradictoires de l'apôtre. L'apôtre qui néanmoins ouvre son cœur, ses pensées aux Philippiens, qu'il chérit tout particulièrement. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'apôtre ne philosophe pas sur la vie et la mort en général, mais sur sa vie et sa mort, et sur leur sens. C'est donc une réflexion intime qu'il nous livre ici, une réflexion chargée d'émotions. Souvenons-nous que l'apôtre est en prison, et à l'évidence, il envisage clairement la possibilité d'une mort prochaine. Paul est donc partagé. Il fait face à un dilemme qui le taraude. Il désire être auprès de Christ, ce qui est de loin le meilleur. Et en même temps, il voit les besoins de son ministère qui n'est pas encore terminé. Et ainsi, il dit au verset 24, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je reste dans la chair. Voilà pour le dilemme de l'apôtre. Passons maintenant au deuxième point où je vous propose d'aborder le côté pile de son dilemme, le désir de s'en aller. Le désir de s'en aller. Nous venons de le voir, Paul exprime ici clairement son désir de s'en aller, c'est-à-dire de mourir. Mais pas pour le plaisir de mourir, si vous me permettez ce paradoxe, mais pour être avec le Seigneur, ce qui est, ajoute-t-il, de beaucoup le meilleur. Nous comprenons donc clairement ici que l'apôtre n'est pas suicidaire. Il n'est pas en train de faire une profonde dépression. Il n'est pas en train de dire que la mort est préférable à la vie. Ce verset n'est pas un appel à la mort. Et il est important de le préciser. Ce qui est le meilleur, ce qui est désirable, ce n'est pas de mourir, mais c'est d'être avec le Christ. Et en fait, mourir n'est que le mal nécessaire pour cela. Si Paul a le désir de s'en aller, ce n'est donc pas parce qu'il en a assez de la vie, mais parce qu'il désire être auprès de Christ. Christ, dit-il au verset 21, qui est sa vie. C'est pourquoi, ajoute-t-il, la mort lui est un gain. Un gain parce que mourir signifie aller auprès de Christ. Auprès de Christ qui est sa vie. Et nous avons là le verset que j'évoquais en introduction et qui est au centre de ce passage, au centre de notre réflexion ce matin. Le verset 21 où nous lisons « Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Le gain, c'est donc le Christ, pas la mort. Le gain, c'est le Christ, pas la mort. La mort reste une ennemie, un intrus dans la création de Dieu. La mort n'est pas désirable. Ce qui est désirable, c'est le Christ. C'est cela qui est de beaucoup le meilleur. Et tout cela est ainsi parce que l'apôtre a fait de Christ le cœur de sa vie, le but de sa vie, le tout de sa vie. C'est pour le Christ qu'il vit. C'est pour le servir qu'il vit. C'est même pour le servir qu'il mourra un jour. À ses yeux, rien n'est plus important que le Christ. D'ailleurs, il écrira à ce sujet plus loin dans cette même lettre, au chapitre 3, dans les versets 7 à 9. « Mais ce qui était pour moi un gain, dit-il, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Tout perdre pour gagner Christ. Tout perdre pour être trouvé en lui. Voilà la pensée de l'apôtre. Voilà, pourrions-nous dire, sa philosophie. Voilà pourquoi il peut considérer la mort comme un gain, car ce gain, c'est le Christ. Chers amis, toutes ces paroles sont fortes, et peut-être qu'elles nous bousculent ce matin. Et elles nous interpellent sur la place réelle du Christ dans notre vie. Bien sûr, nous ne sommes pas l'apôtre Paul. Notre service n'est pas le sien. Mais la place du Christ dans notre cœur ne devrait-elle pas être la même? Chers amis, pouvons-nous dire que le Christ est notre vie? Qu'il est au cœur de notre vie? Est-ce que nous perdrions tout ce que nous avons pour gagner Christ? Ces questions nous rappellent combien il est facile de remplacer le Christ par d'autres choses. Combien il est facile de faire de ces choses notre trésor. Jésus a parlé à ce sujet et il a mis en garde ses disciples contre certains dangers. Je lis dans Matthieu 6, les versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Où est notre trésor? Voilà la vraie question que nous devons nous poser à ce stade. Et la direction dans laquelle nous devons chercher la réponse nous est donnée par Jésus. Notre trésor se trouve là où est notre cœur. Est-ce que mon cœur se trouve en Christ? Ou bien est-ce qu'il se trouve ailleurs? L'apôtre Paul pouvait dire que Christ était sa vie. C'est pourquoi il pouvait aussi dire que la mort lui était un gain, car par elle il serait enfin avec le Christ. Ce texte nous offre un autre regard sur la mort. La mort qui devient un gain si Christ est ma vie. La mort qui finalement n'est qu'un passage vers le Christ. Si nous sommes en Christ, si Christ est notre vie, alors nous n'avons plus besoin de craindre la mort. Craindre de mourir peut-être. Craindre de mourir sans doute. Mais pas de la mort. Parce que la mort est pour nous un gain. Oui, si nous sommes en Christ, nous pouvons regarder aux ténèbres de la mort et y voir luire la lumière de Jésus-Christ. La lumière de la maison du Père dans laquelle Jésus est allé nous préparer une place. J'aurais pu, dans ce point, en parlant de gain pour la mort, évoquer beaucoup d'autres réalités, elles aussi importantes. La mort comme un gain parce qu'il n'y aura plus ni peine, ni douleur, ni souffrance. La mort comme un gain parce qu'il n'y aura plus de péché. La mort comme un gain parce que il n'y aura plus le diable et son influence. Et nous pourrions rajouter d'autres choses ici. Mais nous sommes restés sur le point que l'apôtre développe dans ce passage, à savoir la mort comme un gain à cause de la présence de Jésus-Christ. Car pour moi, Christ est ma vie, dit-il, et la mort m'est un gain. Après le côté pile, passons au côté face du dilemme de l'apôtre. C'est notre troisième point. La nécessité de demeurer ici-bas, ou dans la chair, dit-il. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul a donc le désir d'être auprès du Seigneur, mais il voit aussi la nécessité de demeurer dans la chair. Et c'est pour lui une impérieuse nécessité. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'apôtre exprime ici beaucoup plus que simplement le désir de vivre. Toute personne normalement constituée désire vivre et non mourir. C'est instinctif, c'est naturel et c'est normal. En fait, ce dont il est question ici, ce n'est pas du désir de vivre, mais de la nécessité de servir. Paul est au service du Seigneur. Sa vie lui appartient, Christ est sa vie. Et la volonté du Seigneur prime sur la sienne. C'est ainsi que Paul est tiraillé entre le désir d'être avec le Christ et la nécessité de le servir, d'accomplir sa volonté. C'est ainsi qu'il voit les besoins des Philippiens. « À cause de vous, dit-il. » Et il comprend que son œuvre n'est pas encore achevée. C'est ainsi qu'il comprend que sa mission n'est pas encore terminé, verset 24, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul a mis son dilemme sur la balance. et celle-ci penche du côté du service. C'est une nécessité pour lui, une priorité. Christ est sa vie. Dans Galates, au chapitre 2, verset 20, il dira même que ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 8, il dira aussi que si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Oui, depuis sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul a mis sa vie au service du Christ. Il a fait ce que Jésus dit dans les évangiles, en parlant de le suivre. Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à sa vie pour suivre, pour servir le Christ. Il a perdu sa vie à cause de Christ. Il a appris à faire passer la volonté du Seigneur avant la sienne. Il a appris à subordonner ses désirs à ceux du Christ. C'est pourquoi il peut dire ici qu'il est plus nécessaire, à cause des Philippiens, qu'il demeure dans la chair. Chers amis, est-ce ainsi que nous considérons notre vie? Servir le Christ est-il pour nous aussi une impérieuse nécessité? Bien sûr, je le redis, nous ne sommes pas l'apôtre Paul. Et notre service est bien évidemment très différent. Mais si nous sommes en Christ, il nous faut aussi le servir, chacun à notre place et chacun avec les dons que le Seigneur lui a donnés. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour nous-mêmes ou pour nos désirs. Servir le Christ, ça ne veut pas dire arrêter de vivre. Ceci dit, il faut néanmoins réfléchir à la place que prennent toutes les autres choses de notre vie. Si Christ est ma vie, toutes ces autres choses ne devraient-elles pas venir après le Christ? Ne devraient-elles pas être subordonnées au Christ? Suivre Jésus demande des renoncements. Nous ne pouvons pas suivre Jésus et vivre uniquement pour nous-mêmes. Il nous faut être cohérents. Et c'est ce que l'apôtre fait ici. Il est cohérent avec sa vision des choses, avec sa compréhension des choses. Il est cohérent et il fait passer le Seigneur en premier. Il est cohérent et il subordonne ses désirs et sa volonté à ceux du Christ. Si nous sommes à Christ, en Christ, nous devons aussi rechercher cette cohérence dans notre vie. Qu'est-ce qui nous motive vraiment dans la vie? Quel est le ou quels sont les buts que nous poursuivons? Qu'est-ce qui est premier dans ma vie? Qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est avoir une bonne situation? Construire une bonne carrière? Amasser le plus d'argent possible? Me marier? Fonder une famille? Avoir des enfants? Profiter de mes petits-enfants, jouir de la vie, accomplir mes rêves, etc. Bien évidemment, ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Beaucoup sont même légitimes, elles font partie de la vie humaine. Il ne s'agit pas ici d'opposer ces choses au Christ, ou le Christ à ces choses. Mais il s'agit de savoir ce qui est au centre, au cœur de ma vie. Il s'agit de savoir ce pourquoi je vis vraiment. Il s'agit de savoir si Christ est ma vie ou pas, tout simplement, si le servir est une priorité ou pas. Ou alors si ma vie, c'est ma maison, ma voiture, mon travail, mes loisirs, mes passions ou que sais-je. Je le redis, ces choses sont bonnes et importantes, mais elles ne doivent pas prendre la place du Christ dans notre vie. Ce qui va vraiment compter pour l'éternité, ce n'est pas la maison que nous aurons construite, ce n'est pas la belle voiture que nous aurons achetée, ce n'est pas tout l'argent que nous aurons épargné, mais ce sont les trésors que nous aurons amassés au ciel par notre service et notre obéissance au Christ. C'est pour reprendre les termes de Paul aux Corinthiens, la manière dont nous aurons bâti sur le fondement qui est Jésus-Christ. Quelle est la nécessité pour nous de demeurer dans la chair? Pour Paul, c'était au moment de notre texte les besoins des Philippiens. Pour chacun de nous, je ne sais pas. Mais pour chacun de nous, en général, cette nécessité de demeurer dans la chair est toujours pour servir le Seigneur, si nous sommes à Christ, pour être les témoins de son amour, de son salut, de son évangile, car des hommes et des femmes se meurent sans le Christ, jour après jour. Tant que le Seigneur nous garde ici-bas, dans la chair, c'est que notre service pour lui n'est pas encore achevé. Paul fait donc face à un dilemme entre son désir d'être auprès de Christ et la nécessité de continuer à servir le Christ. C'est la nécessité qui l'emporte. La nécessité car son œuvre, son ministère pour le Christ n'est pas encore achevé. Il en est d'ailleurs convaincu. Au verset 25, il dit « J'en suis persuadé, je le sais, je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous, vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. » Mais au-delà de son désir de servir le Christ, au-delà de la nécessité de le faire, l'apôtre Paul, dans notre texte, met en avant la motivation suprême qui l'anime. Et cette motivation, elle se trouve au verset 20. Je le relis avec le verset 21. « Mais maintenant, dit-il, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Quelle est cette motivation suprême? C'est l'exaltation de Jésus-Christ. C'est notre quatrième et dernier point. Au final, quelle que soit la volonté du Seigneur pour lui, l'apôtre Paul désire une chose, la grandeur de Jésus-Christ. Que le Christ soit exalté, c'est-à-dire qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, magnifié, honoré, célébré grandement. Et cela, dit-il, par sa vie ou par sa mort. Paul, au moment où il écrit ces lignes, est arrivé à ce stade où il s'en remet entièrement au Seigneur. Un peu à l'instar de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémané, quand il disait à son Père, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Paul a dit son désir. Il l'a exprimé. Il a dit la nécessité qui s'impose à lui. Mais ce qui compte en premier, c'est la volonté du Seigneur. Ce qui compte en premier, c'est que le Christ soit exalté. Et cela, soit par sa vie, soit par sa mort. Et Paul sait que ce choix ne lui appartient pas. Il appartient au Seigneur. À vues humaines, son sort semble être dans les mains de la justice romaine, qui décidera de sa vie et de sa mort. Mais Paul sait que, avant tout cela, son sort est dans les mains de Dieu. Quel bel exemple de confiance et de soumission à Dieu. Et pour nous, quelle force! Quelle force quand nous faisons face à un dilemme de pouvoir nous en remettre à Dieu qui sait toutes choses et qui non seulement sait toutes choses, mais qui les fait concourir pour notre bien, dans le texte, pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Un bien qui nous échappe parfois ici-bas, mais que nous comprendrons et que nous célébrerons dans la gloire. Et cela est vrai pour toutes les situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous trouver ici-bas, la maladie, le deuil, l'épreuve. C'est une grande force pour chacun de nous de pouvoir nous reposer en Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Cela n'est possible que quand nous lui avons pleinement confié toute notre vie. Cela n'est possible que si le Christ est notre vie. Au final, nous devons être prêts à vivre et prêts à mourir pour le Seigneur. Car ce qui compte en premier, c'est que le Christ soit exalté. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que par la grâce de Dieu, ces paroles soient vraies pour chacune, dans chacune de nos vies. Et qu'elles le soient toujours plus, jour après jour. Pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur dès ici-bas et pour l'éternité. Amen. J'aimerais vous inviter à prendre quelques instants de silence, de prière silencieuse dans notre cœur.